Bonjour chère auditrice, chers auditeurs. Donc nous voici à notre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Écoutez, l'idée de montrer ou bien dévoiler, exhiber si vous voulez, sur la place publique, et cela à travers des témoignages, des expressions vécues par des victimes qui viennent sur ce plateau pour nous dire à quel point les choses ne fonctionnent pas réellement comme on l'imagine. Donc exhiber toute forme d'injustice, d'abus de pouvoir et de défauts majeurs d'une voix politique qui ignore de plus en plus la voix du peuple. Bref, donc, cette tribune qui encourage surtout la dénonciation des torts subis est rapidement devenue un pont de solidarité reliant les voix de plusieurs victimes, les victimes de notre système judiciaire, de notre système de santé, de notre système scolaire, si vous voulez, ou social. Bref, d'une politique un peu perdue, moins sûre d'elle et en définitive changement sans réellement consulter la plateforme qui est vous, mes chers citoyens, le peuple. Résultat, les victimes sont de plus en plus nombreuses et l'État progresse en reculant vers le modèle d'État en déclin progressif. Donc, vivre des souffrances et les conséquences, les séquelles des injustices est insupportable pour les victimes, exactement comme une personne prise dans le piège d'une maladie qui le détruit par portions et à la fin du combat, il baisse les bras et se laisse aller. Donc voilà pourquoi les injustices sont les pires calvaires qui peuvent frapper une société et la démolir. Imaginez-vous, si on parle d'un pays moderne, exemplaire, comme le nôtre, qui attire des milliers et des milliers de personnes en quête de justice, dignité humaine, de liberté et de rêve. Étaler justement ce trop-plein d'injustices sur la place publique n'est pas simplement avertir ou alerter les citoyens, mais plutôt pour les inviter à participer massivement dans le projet de la société civile et celui d'être responsable et engagé à faire valoir ses droits de citoyen. Donc, alors, nous devons tous comprendre que c'est de notre devoir de citoyen de participer dans la reconstruction de notre société, d'alerter directement le politique, puisque nous sommes reliés et pris de la vie courante, du terrain vécu, de la base qui reçoit et qui envoie le message. Brièvement, nous avons tous pris le 2 mai 2011 de notre propre choix, bon gré, mauvais gré, il faut le dire, le choix un peu stupide d'être dans un train qui roule à haute vitesse vers une destination inconnue, définitivement incertaine. Autrement dit, donner le plein pouvoir à une marionnette comme Stephen Harper à conduire ce train de haute vitesse me semble clairement une gaffe jamais vue. L'histoire va témoigner à son tour. Au micro avec vous ce matin, Adj Zitouni, un militant du MAJ, un mouvement en défense des droits de la personne face aux conneries de notre système judiciaire. Vous pouvez toujours nous appeler après l'émission au 514-273-4302 ou bien nous écrire info@commercialmaj-quebec.com. Donc je répète, le 273 pour nous rejoindre, 273-4302, ou bien nous écrire info@commercialmaj-quebec.com. Je vous informe aussi, mes chères auditrices et auditeurs, que nous allons cesser notre diffusion directe pour la période d'été pour la reprendre l'automne prochain. À cette dernière émission, j'ai invité au studio des vrais militants qui portent sérieusement la cause de notre société en plein cœur et qui n'hésitent pas de continuer à la défendre pleinement et en tout temps. J'aimerais que nous apprécierons ensemble le travail et le dévouement de ces militants qui passent à côté de la vie de la jeunesse pour le bien de notre société, pour notre bien. Restez à l'écoute après notre thème musical. Nous allons revenir et je vous présenterai nos invités et les sujets qui les préoccupent le plus.
Mes jours. C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déporté. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Voilà, rebonjour chère auditrice, cher auditeur. J'ai avec moi dans le studio monsieur Patrick Scott, dont j'ai toujours le plaisir et l'honneur de recevoir, un militant engagé dans la défense des droits de la personne de longue date. Je me sens tout petit devant ce personnage qui me semble énorme par son dévouement à la cause des libertés civiles et à l'avenir de la démocratie de notre pays. Il milite depuis plusieurs années, même plus qu'une vingtaine d'années, à titre de bénévole. Voilà le secret de cette grandeur que l'État ignore chez les individus. J'ai aussi en face de moi Eric Sylvestre, dont le même parcours aussi, Dominique Paladi, Marc Deramé, c'est ça?
Laramé.
Donc voilà, ils sont tous venus aujourd'hui pour nous en parler de leur combat et en même temps nous invitent à participer à une marche populaire qui se tient le 27 juin prochain à Montréal, une date qu'ils veulent inscrire dans le registre de l'histoire canadienne. Donc les arrêtés des G20 donc n'ont pas tourné la page, ils sont là plutôt pour la réouverture ouvrir en définitive une autre page dramatique, sombre et noire, s'ajoute à l'histoire canadienne. Nous allons forcément revenir sur les traces de cette ville qui s'est transformée en camp armé de 12 000 policiers qui ont perdu tout contrôle par un ordre déplacé, ivre de pouvoir malmené. Comment Toronto, cette ville canadienne, a pu devenir le théâtre d'une telle atrocité? Avec vous, Patrick Scott, merci d'être là, comme toujours.
Ben, merci.
Comment pouvons-nous, si vous pouvez, comment pouvons-nous dire quelques mots sur un recul comme ça, on revient un petit peu sur cette histoire dramatique de Toronto, la G20 de Toronto?
Mais qu'est-ce qui est aberrant, c'est que ça va faire bientôt un an,
exactement,
des événements. Et on dirait que tout ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent... Tout le monde, en fait, veut tourner la page sur l'événement.
Exactement.
Ils veulent que ça soit derrière eux.
Effacer, étouffer tout.
C'est
là.
Ça. Nous, on combat depuis un an, sans relâche, à développer des réseaux, des contacts, des gens, pour pas que cette cause soit oubliée. Parce que on parle de violation fondamentale de nos droits civils.
Exactement.
Puis c'est pas rien. Parce que y a des gens... Il y a des gens qui sont morts au nom de la liberté. On les a envoyés se faire tuer un peu. D'ailleurs, encore aujourd'hui, en Afghanistan, on envoie soi-disant des gens tués au nom de la liberté. Et quand on est ici, on essaie d'utiliser notre liberté politique ou notre liberté d'aller dans la rue.
Oui.
Ah ben là, il faudrait être encadré et à limite même criminalisé.
Oui.
Fait que nous, on veut pas lâcher le morceau tant aussi longtemps que tous les arrêtés du G20 n'auront pas justice.
Oui.
Nous, on lâchera pas.
Vous disiez, Patrick, nous, vous parlez quand vous dites nous, est-ce que vous mettez le doigt sur tous les victimes ou bien même des gens qui sont solidaires quoi, à votre cause?
C'est
une cause nationale. Hein,
oui, c'est une cause nationale. On parle que c'est tout le Canada. Là. Il y a eu plusieurs gens arrêtés de différentes provinces. Puis il y a aussi, c'est les familles. Il y a des familles qui ont été touchées dans ces événements. Ben, en fait, les personnes...
C'est des inquiétudes.
Ben oui, des inquiétudes. Puis il y a aussi fait que c'était une expérience très, très traumatisante pour certains.
Inattendue aussi.
Inattendue. Ils n'ont jamais été arrêtés de leur vie. Et puis ils ont été arrêtés d'une façon, faut le dire, c'était sauvage, agressive et violente par la part des policiers. Et d'ailleurs, qui ont été payés largement, je dois le dire, là, 9 000 $ pour, en tout cas, whatever. En revenant à notre sujet.
Non, on peut le dire. Ils ont été payés 9 000 $ pour 10 journées, mesdames et messieurs. Pour 10 journées de travail, ils ont reçu un beau salaire de 9 000 $.
Okay.
Il y a même un petit policier à Toronto, qui a réussi à faire charger tous ses frais à l'État et il s'est fait payer pour 10 jours de travail, attention, 14 000 $.
Là, vous parlez de 12 000 dominicains, hein, de 12 000 policiers qu'ils étaient.
Nous, on a même d'autres chiffres que vous. Il y avait 5 000 policiers militaires à Toronto. Il y avait en tout peut-être 20 000 policiers dans la rue pour 30 000 manifestants.
Éric Sylvestre, vous étiez aussi traumatisé par cette expérience-là et vous avez un mot à nous dire aujourd'hui.
Oui, ben je suis encore traumatisé. Je pense que tout le monde qui est encore... J'étais encore à Toronto d'une certaine façon.
C'est ça.
On est tous restés un peu là-bas.
On est tous restés...
suspendus comme ça.
Oui, puis aujourd'hui, c'est un peu les journaux, puis... Tout nous ramène à l'ordre pour dire attention tout le monde, ça fait un an maintenant, où est-ce que vous en êtes? Et puis, on ne sait pas exactement parce qu'il y a tellement de combats, il y a tellement d'organisations à faire qu'on a l'impression de... Puis il y a tellement de résistance de la part des policiers, de la part du gouvernement à avancer dans ce dossier-là que d'un certain côté, on a l'impression de piétiner puis de ne pas avancer. Puis de l'autre côté...
Si vous me permettez, M. Sylvestre, quelle est l'image, qu'est-ce que vous gardez réellement qui est des séquelles qui vont vraiment... pour le public, hein,
C'est l'interdiction. C'est que des interdictions partout. C'est ça que je me rappelle. L'interdiction d'avancer, l'interdiction de parler,
l'interdiction d'être là, en fait.
L'interdiction d'être là.
Je pense que ce qu'on a laissé tous à Toronto, ça a été une certaine forme d'innocence. Moi, pour ma part, c'était la première fois que je me faisais arrêter, même si c'était pas la première fois qu'on se faisait arrêter, où on a déjà vécu des choses qui nous coupaient notre liberté. À Toronto, ça a tellement été, comme disait Patrick, sauvage et agressif, c'était violent. Je pense qu'on a tous laissé de côté une certaine part de notre innocence. Ça nous a tous fait ouvrir les yeux que même dans un pays dit civilisé comme le nôtre, dit un pays de liberté comme le nôtre,
dit démocratique,
exactement, qu'une telle chose se passe. parce que quand on envoie du monde se faire tuer, quand on voit dans des pays comme l'Afghanistan, quand on voit que dans d'autres pays, eux, leur seul but, c'est d'avoir une certaine liberté comme la nôtre, qu'ils veulent aller marcher dans les rues et faire leurs manifestations. Dans les rues sans se faire arrêter ou sans se faire tirer dessus, ben ici on peut même plus faire de manifestation parce qu'on se fait arrêter. Si on parle un peu trop fort,
c'est le choc de s'en rendre compte. Puis qu'après ça, dans les jours qui suivent, c'est de se rendre compte que la première chose qu'ils désirent faire, aussi gros que ça pouvait être, c'est maintenant après ça, c'est de l'étouffer puis de pas l'entendre. Oui. Comme si, excuse, mais on est allé là-bas, nous autres, on était dans des cages à humains. Là.
Mais Patrick, pour vous, Patrick Scott, pour vous, est-ce que c'est vraiment la goutte qui a débordé le vase ou?
J'en ai souvent parlé, surtout à beaucoup de militants ou des gens que je connais. J'étais souvent incarcéré dans ma vie pour des causes sociales et politiques. Souvent, je restais 12 heures, je signais un papier, je ressortais, j'allais en cours et puis il y avait un non-lieu parce que j'avais le droit de faire que ce que...
Cette fois-là,
j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense sur une période de 3 jours.
Mais c'est pas juste personnel, en général.
Au plan collectif... C'est évident. C'est évident que c'était gros. C'était immense, au niveau. C'était toute une structure de répression tellement forte pour décourager, ça on l'a souvent dit, mais pour décourager toute personne pour plus qu'ils se présentent dans des manifestations ou qu'ils contestent.
Marc, pour vous...
Ce qu'il faut admettre, c'est qu'on a été premièrement séquestrés. Notre arrestation, elle est illégale. On a été torturés. Il ne faut pas avoir peur des mots. Là, c'est de la torture parce que j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu froid pendant 3 jours. C'est de la torture.
Ça, c'est pas en Afghanistan, ça, c'est au Canada.
Non, c'est au Canada. Puis nous, on se rend compte aussi que, oui, c'est un problème qu'on a ici au Canada, mais c'est également un problème international. Il n'y a pas juste au Canada, il y a aux États-Unis, il y a présentement en Espagne qui est en train de se lever, de se révolter. Puis on voit que l'État policier se met à matraquer les jeunes dans la rue parce qu'ils prennent la rue, mais au fond, il y a le droit de le faire. Puis on a vu la même chose.
En Espagne, le problème, c'est qu'eux ne se sont pas encore remis de la crise financière. Donc, il y a 45% des jeunes en Espagne qui sont sur le seuil de chômage. Puis ces jeunes-là, ils en ont assez. Ils disent, votre système capitaliste, là, il marche pas. Nous autres, là, on veut du changement. Puis le gouvernement leur répond avec la matraque. Puis on voit des images sur Internet, là. C'est fou. La violence. Puis, je veux dire, tous ces pays-là se tardent d'être démocratiques.
Il y a déjà beaucoup de censure sur ces images-là parce que beaucoup de personnes ont essayé d'aller chercher ces images, ont essayé de diffuser ces images. Et malheureusement, après 2-3 jours, eh bien, certaines images ont disparu. Certains sites Internet de vidéosurveillance ont été fermés, complètement fermés. Et puis, il reste quelques sites Internet qu'on peut voir à peu près ce qui se passe en Espagne. Mais présentement, l'État et le gouvernement est en train de mettre un voile sur l'Espagne, comme qui ont mis un voile sur Toronto pour que le reste de la population ne soit pas réellement au courant de ce qui se passe, de toutes les atrocités qui peuvent se produire.
Justement, Dominique, je ne sais pas si parmi vous ici, il y a quelqu'un qui rentre en contact avec, on sait que le G20 en France dernièrement, est-ce que vous avez des contacts des militants? Est-ce que vous avez, quelle est la différence, quel est le constat que vous constatez entre le G20 ici à Toronto l'année passée et celui qui vient de dérouler en
Moi, personnellement, j'ai des contacts via Facebook ou via certains réseaux sociaux qui sont contre la spéculation en France. Eux ont vécu sensiblement le même type de répression qu'on a vécu. Ils se sont fait encercler devant la palace publique. C'est des trucs qui sont complètement aberrants. Puis eux non plus, ils comprennent pas que dans un pays qui est démocratique, qu'on est supposé de promener la liberté d'expression, qu'on soit réprimandé pour des trucs qu'on peut penser. Au fond, on revient à 1984 avec la police de la pensée. Là. C'est ça qui se passe. On nous arrête, on nous kidnappe, on nous traite comme si on était moins que rien à cause de ce qu'on pense. Au fond, on est juste pas d'accord avec la façon que le système capitaliste fonctionne, la façon que le système bancaire fonctionne. On trouve que c'est pas un système qui est équitable.
Oui, mais Patrick, vous pensez pas que ici, l'année passée à Toronto, c'était un peu exagéré par rapport à d'autres lieux où G20 il a eu lieu?
Ben, moi, j'étais à Washington contre le WTO avant Seattle.
Oui.
J'avais vu les Pacifiques, les gens. Oui, c'était intense là, mais je sais pas. Il y a une espèce de nouvelle convergence de de vouloir un ordre absolu. Oui. C'est un ordre, mais tu sais, dans un cadre où la population, ok, un peu manifester, genre, mais
dans
en
un petit
silence,
coin, là,
dans un petit coin, coin isolé,
sans bruit, quoi.
Sans bruit,
en fait. Trop de vagues.
C'est ça, ne fait pas de vagues. Puis il faut le dire aussi, moi je le dénonce depuis le début, il y a aussi des politiques. C'est-à-dire, on a vu comme le gouvernement conservateur, je veux dire, ils ont pas une, comment dire, ils ont une politique sévère au niveau de tout ce qui est opposition ou tout ce qui est
une politique de contrôle.
C'est ça. Oui, c'est une politique. On a vu pendant la campagne électorale comment ils ont contrôlé des journalistes ou les mettre dans les coins là. C'est pour moi je trouve que c'est inquiétant, en fait.
Oui. Mais monsieur Dominique Faladi, vous étiez un petit peu plus loin que ça. Vous avez assisté à l'Assemblée avec
Oui, mais en fait, nous, après le G20, qu'est-ce qu'on a créé un feu regroupement des arrêtés du G20. Et puis ensuite pour le regroupement des arrêtés du G20, avant de créer l'organisme de défense des prisonniers politiques, j'ai travaillé personnellement avec Mme Mourani, députée du Bloc québécois dans la circonscription d'Antique. Et puis, avec cette femme-là, nous avons, elle a demandé au Parlement qu'un comité permanent sur la sécurité publique et nationale siège pour le G20, expressément pour le G20. Elle a fait beaucoup de luttes pour ça.
On la remercie d'ailleurs.
Oui, on la remercie très fortement. Elle a beaucoup travaillé pour ça. Elle était choquée et scandalisée de voir quel traitement ont subi les jeunes Québécois. On s'est fait traiter, on était racistes à notre égard parce qu'on parlait français. On n'a pas pu se faire servir dans notre langue. Et puis, des jeunes de 17 ans qui pouvaient pas avoir leur coup de téléphone à leurs parents ou à un avocat, restait plus que 24 heures. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Elle a créé...
Mais vous l'avez accompagnée, hein?
Oui, je l'ai accompagnée beaucoup. J'ai essayé de l'aider beaucoup. Je lui ai référé beaucoup de témoignages.
C'est ça, exactement.
Je lui ai référé des personnes comme Maryse Poisson a été témoignée au Parlement dû à cause que j'avais
C'est-à-dire
quand
même, le politique, quand même, ils étaient quand même là et vous ont écouté quand même.
Oui, ils nous ont écoutés, mais écoutez, nous, on était là la première journée. La première journée que siégeait le comité, il y avait les chefs de la GRC et le député et le ministre de la Sécurité publique. Son nom m'échappe, malheureusement. J'ai un blanc de mémoire ce matin, désolé. Mais, et puis, non, mais eux ont vraiment été joués la carte du « c'est pas notre faute ».
Le « mea culpa ».
La patte blanche.
La patte blanche, totalement. Écoutez,
c'est quoi? Ça veut dire que ça le dépasse?
Il y avait personne de responsable.
Ouais.
Tout ce qui était responsable...
Mais c'est ça ce qui est dommage. On va vous écouter, mais on s'en fiche ce que vous...
Non, mais ce comité-là a rendu son rapport, puis le rapport nous favorise.
Tout à fait, tout à fait. Ce rapport dit que c'était accablant. Le G20 a été, les arrestations étaient accablantes.
La plus grande arrestation massive en temps de paix de l'histoire du Canada.
Ils demandent.
Mais le suivi, ça veut dire.
Ils ont fait leurs recommandations. Ils ont recommandé une enquête publique. Puis ensuite de ça.
Ils ont 8 recommandations très précises. Premièrement, ils ont pris des recommandations. Au début, c'est monétaire, c'est budgétaire, milliard de dollars qui étaient dépensés dans le G20. Et malheureusement, ça, c'est quelque chose de, c'est ça qu'on a appris au début lorsque Mme Mourani nous a invités. C'est qu'ils savaient plus combien ça a coûté le G20 parce qu'il n'y avait pas leur facture. Puis d'ailleurs, nous, avant maintenant, avant que je ressorte d'un restaurant maintenant, il faut que j'aille ma facture. Parce qu'un policier peut venir me voir, c'est une nouvelle loi en vigueur. Ouais. Lorsque je sors d'un restaurant ou d'un dépanneur, je dois avoir ma facture pour prouver que je confirme mon achat.
Ouais.
Par contre, les gouvernements de l'État vont faire les G20, vont faire un G20, vont dépenser $1 milliard dans la sécurité, mais ils vont plus avoir leur facture, donc le milliard a été un petit peu excédé.
Ouais.
Il y a aussi il y avait ça. Ensuite, Mme Mourani, elle a attaqué beaucoup les chefs de la GRC et le ministre de la Sécurité publique et nationale.
C'était la seule députée qui a
fait ça. Oui, beaucoup la seule.
Elle est porte-parole aussi de la sécurité publique aussi.
Tout à fait. C'est elle qui a beaucoup pris la défense
en charge de dossier, quoi.
Des individus, des victimes, effectivement. C'est elle qui a demandé au Parlement de... de faire ce comité.
Je pense, Dominique...
Marc, oui, je veux juste spécifier que M. Harper, au début des élections, a refusé de mentionner où était allé l'argent pour le G20, oui. soit disant qu'on s'en allait dans une période électorale puis qu'il voulait pas ouvrir ce débat-là. Oui.
C'est une patate chaude.
C'est une grosse patate chaude, évidemment. Mais après ça, le très déshonorable M. Harper, finalement, lui, il ne dit pas finalement là, après les élections, c'est lui qui est au pouvoir présentement. Il est même rendu majoritaire, malheureusement. Je comprends pas que les gens puissent voter pour... Un régime fasciste comme ça. Même la ville de Toronto a voté pour lui. Ça, je trouve ça un peu aberrant. Mais
Et même Vancouver, moi, je comprends pas. Là, mais...
fasciste un peu. Peut-être avec Eric Sylvestre. Le 27 juin, OK? Vous travaillez beaucoup sur le 27 juin mm-hmm. pour faire une journée, célébrer cette journée-là. Qu'est-ce que ça vous donne quoi, cette journée-là?
Ben, ça nous donne. C'est comme un métronome, là. Ça nous donne un claque. Ça fait un an tout le monde. Puis pour nous autres, c'est parce qu'on n'est pas tout attaché à ça. On est chaque jour dans nos communications, dans nos liens.
C'est ça, parce que c'est
le calendrier qui s'impose. Puis que là, dorénavant, on va se mettre à compter en année. C'est un peu ça que ça nous rappelle tout le monde. Puis à toutes les années, on va arriver là, puis on dit bon, mais ça fait 2 ans qu'on est là-dedans, ça fait 3 ans qu'on est là-dedans. Puis ça va aller juste de plus en plus large parce que je pense, en tout cas, je vais pas être pessimiste, mais,
Patrick,
mais on n'est pas à veille de s'en sortir.
Ce que j'entends de Eric, est-ce que c'est vraiment c'est pour compter comme ça les années ou c'est...
En fait, la journée, c'est la journée des prisonniers politiques.
Voilà.
Et puis cette journée-là est pas... OK, cette année, on fait le G20, mais peut-être dans 2 ans, il va se passer quelque chose, un fait nouveau. Et on va faire une thématique à chaque année.
Voilà. Mais cette journée, elle ne devient pas un signal.
Mais on va en parler chaque année, bien sûr. Mais
sûr, le G20, c'est un point de départ.
C'est de ralentir, de dire, écoutez, là, il y a un problème, il faut le régler. Là.
Le G20. On sait, juste enfin, c'est que... Okay. On sait que les procédures...
Excusez-moi, je prends une pause musicale, et puis on va revenir à notre...
A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Festivalissimo présente sa 16e édition Film et Fiesta. Festivalissimo est depuis 1996 le plus important festival de films provenant d'Amérique latine, d'Espagne et du Portugal. Des primeurs, des nouveautés jamais vues au Québec, du cinéma d'auteur et du cinéma indépendant. Festivalissimo, du 18 mai au 5 juin, au cinéma ONF face au métro Berri-UQAM. On vous attend aussi à la Fiesta Latina les 3, 4 et 5 juin au Square Cabot, au métro Atwater. Informations au 514-737-3033 ou sur www.festivalissimo.ca.
On dirait qu'il est familier avec le cinéma.
Oui, Francine, ton regard politique est encore bien aiguisé.
Il y a sûrement eu un déclic qui a fait que ces images puissent m'en être partagées.
Ah, oh, oh, ben là, tu fais une surprise!
Puis quand je voyais ton film, j'ai pensé un petit peu au corps céleste.
Non, mais vous avez failli mourir.
Oui, oui. Une heure de cinéma, derrière l'image, avec François Dorando, Pierre Pageau et Guy Ménard. Vendredi, 15h.
Ne manquez pas Voyages musicaux. Une émission de découverte musicale de Montréal
à Hong Kong,
à Shanghai, en passant par le monde entier.
Avec Simon Onkangner
et Sabina Amandara, tous les mardis soirs de 22h30 à 23h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM.
Nous représentons la réalité multiculturelle de Montréal. Plusieurs langues, plusieurs communautés, une même implication sociale. En matière de musique, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Donc, rebonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Nous sommes toujours avec nos invités d'aujourd'hui, Monsieur Patrick Scott, Éric Sylvestre et Dominique Paladi et Marc Laramé.
De l'organisme de défense des prisonniers politiques.
Merci. Donc, je reprends la parole avec Dominique Paladi.
Paladini,
excuse-moi. Donc, je reviens sur cette journée-là, la fameuse journée du 27 juin. Pourquoi elle est assez, je le redis toujours, pourquoi elle est assez importante pour vous? Vous voulez faire que chaque année, on se rappelle cette journée-là?
Parce que le 27 juin 2010, ça a été la dernière journée du G20 officiellement, mais ça a été la journée aussi où il y a eu le plus d'arrestations. C'était dans cette journée-là, où il y a eu une centaine de Québécois arrêtés dans un gymnase,
ouais,
ainsi que 200 autres Québécois arrêtés dans la rue, comme je faisais partie et Marc faisait partie.
Ouais.
On s'est fait arrêter dans la rue, je sais pas si Éric faisait partie du gymnase, pardon.
Non, moi j'étais la veille.
Ah, lui c'était la veille, désolé. Mais c'est la majorité de nous, on était arrêtés le 27. Ça, on a perdu tous nos droits, toutes nos libertés. C'est une date pour nous qui va rester marqué jusqu'au restant de notre vie.
Oui.
Donc, c'est important, nous, de marquer un trait un an plus tard. Un an plus tard, après le G20, c'est important de revenir et de démontrer dans quelle démocratie on vit au Canada. Parce oui. que on prend la rue, on se fait taper à coups de matraque. Il y a des journalistes qui sont là, ils se font taper à coups de matraque, eux autres aussi, par les policiers, se sont fait arrêter. Nous, on a décidé de faire la manifestation du 27 juin devant Radio-Canada, et on se fait, pour une raison très précise, mais on se fait poser beaucoup de questions là-dessus. Mais on a choisi Radio-Canada, je tiens à ce temps d'antenne pour expliquer notre choix. C'est parce que, premièrement, il y a eu beaucoup de manquements médiatiques durant le G20. Il y a eu de la censure que les médias ont dû subir. Certains médias se sont même fait arrêter, se sont fait briser leur matériel. Ils se sont fait arrêter et ils mettent dans des cages comme nous, des journalistes et des journalistes alternatifs.
Pourtant, on n'a pas entendu parler.
Pourtant, on n'en entend pas parler beaucoup. Non, il y a eu un journaliste de Toronto qui s'est fait arrêter et que lui l'a dit dans son journal.
Oui.
Mais c'est un journal de droite dans lequel il travaille. Donc, quelques semaines plus tard, cette histoire-là est tombée dans l'oubli. Nous, on veut justement se rappeler de cette journée-là. On veut démontrer à la population vraiment qu'est-ce qui s'est produit. On constate que qu'est-ce qui s'est passé dans la rue n'a pas été vraiment démontré, car il y a juste eu les mêmes quatre images qui ont été démontrées, et ça a été les images que vous voyez encore aujourd'hui du G20. Donc, pour nous, ça ne reflète pas vraiment la réalité. Par la suite aussi, lorsqu'on parlait du comité permanent de la sécurité publique,
oui.
ça n'a pas été beaucoup décrit dans les médias.
Ça passe, c'est fini.
Ça passe, exactement, c'est fini. Les événements post-G20 n'ont pas été expliqués. Donc, pour toutes ces raisons, il y a aussi, j'ai oublié, ben oui, les causes judiciaires. Les causes judiciaires, c'était des cirques judiciaires, c'était des cirques médiatiques aussi. Oui. les gens n'ont pas eu leur dépôt de preuve. Il y a beaucoup de personnes qui ont fallu qu'ils se déplacent de Montréal à Toronto pour aller devant la cour, et ce, plusieurs fois, parce que la preuve n'était pas prête.
Il n'y avait pas de preuve, quoi.
Non, c'était juste des sourires devant les caméras et dire à quel point les manifestants ils ont raison de se faire... Non, ça marche pas comme ça. Nous, on veut démontrer en allant devant la société Radio-Canada, qui est une société publique et d'État qui a couvert le G20.
Normalement, oui. Mais Dominique, si vous permettez, ça veut dire pour vous, ce G20, ce fameux G20, c'est, même si vous étiez militant avant, mais à partir de ce G20-là, vous étiez...
Mais moi, comme j'ai dit tantôt...
Déterminé, là.
Oui, mais comme j'ai dit tantôt, j'ai perdu un peu mon innocence, même si j'étais conscient avant.
Mais cette nouvelle détermination.
Oui, depuis que je suis sorti du G20, depuis que j'ai été arrêté au G20, je suis plus conscient et j'ai beaucoup laissé de ma naïveté derrière.
Voilà,
c'est j'ai ça. Vraiment beaucoup laissé de ma naïveté. Je pensais que ici on était quand même... On n'avait pas toutes les libertés, effectivement, mais je pensais peut-être qu'on avait de la liberté.
Oui.
Mais je me rends compte que non, on n'a pas de liberté, à part la liberté de choisir quel soulier on va se mettre le matin. Notre liberté,
c'est
s'arrête.
Quelle liberté, hein? Je dis bien, Patrick, liberté, c'est vraiment s'exprimer, de dire que la société civile peut dire son mot aussi.
C'est,
hein?
C'est une liberté. Moi, j'aimais bien Julius Gray quand il disait une démocratie totalitaire. Restez chez vous, faites pas trop de vagues.
Éric, je reviens avec Éric Sylvestre qui avait parlé.
C'est parce qu'on a plusieurs appuis importants, comme Dominique disait, le comité permanent de la sécurité publique a été en notre faveur. C'est quand même gros. Oui. L'ombudsman de l'Ontario a fait son rapport.
Il y a une ouverture aussi.
C'est une ouverture. L'ombudsman de l'Ontario a été très, très critique envers la police là-bas et envers le gouvernement ontarien.
Son rapport était excellent. En 1939,
contre les gens. Et l'Association canadienne des libertés civiles qui est de notre côté. Et la Ligue des droits et libertés qui est allée faire un plaidoyer, deux plaidoyers aux États-Unis devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme et l'Organisation des États américains.
Oui.
Le Canada a répliqué à ça, puis la Ligue des droits ont continué leur plainte et leur poursuite. Puis, fait que là, on est en attente, en fait, du Comité des droits de l'homme de l'ONU qui est en train de faire son rapport. Fait qu'il y a une espèce de continuité que tout ça peut prendre du temps. Puis, on est encore dans les eaux de ça à attendre.
Oui, et pourtant, Patrick, je reviens aussi, j'ouvre une autre parenthèse aussi, et pourtant les conservateurs, ils étaient derrière ça, aujourd'hui ils sont là, mais majoritaires.
Oui, c'est ça qui est drôle, parce que nous, on a fait une campagne, en fait, contre le fait de voter conservateur, parce qu'on considérait, nous, que les conservateurs étaient responsables au niveau des décisions qui étaient prises lors du G20.
Oui,
mais pour nous, on a voulu passer le message, alors on a passé des affiches dans les comtés, ici au Québec, disant de ne pas voter conservateur.
Oui.
Et puis ça a fait beaucoup de vagues parce que la droite s'est mobilisée. Même moi personnellement, je me suis fait insulter par le neveu de Maxime Bernier.
Voilà.
Il a dit des absurdités, plutôt
des
grossièretés.
On parle pas de la mère de quelqu'un.
Oui,
ça
c'est ça.
Pas.
Oui, il a dit quelque chose sur ma mère et puis bon, je pense pas qu'il la connaît aussi intime que ça. Ben, là, oui. Mais bref. Mais ça reste que non, ils aimaient pas qu'on parle du G20 puis qu'on revienne avec ça. On avait des affiches qu'on allait poser dans leur compter pour leur mettre en plein visage que oui, vous êtes responsable, puis oui, tout ce qui s'est passé, là, vous avez violé les droits constitutionnels.
Stephen Harper qui a décidé de mettre le G20 à Toronto. C'est Stephen Harper qui a injecté $1 milliard à Toronto.
Ouais.
C'est le ministre de la Sécurité publique et nationale qui a mis le chef de la GRC en poste, et puis en fait c'est lui le chef de la GRC, c'est lui qui a déterminé les forces policières qui étaient à Toronto pour le G20, donc c'est la grosse responsabilité vient
c'est quand même, au gouvernement. C'est quand même, Marc, c'est quand même la voix massive du peuple. On parle de combien de manifestants? Il y avait 25 000, je crois.
Oui.
Autour de 25 000, je crois.
25 000, ouais, quelque chose comme ça.
C'est quand même 25 000, on peut pas, tu sais.
Et les policiers ont arrêté ces 25 000 personnes-là de marcher. Ça, c'est ce qui est grave aussi. C'est pour ça aussi qu'on se présente devant Radio-Canada le 27. C'est qu'on considère que la Radio-Canada, qui est supposée être une société d'État, aurait dû finalement regarder finalement dans le bon côté. Puis regardez que la police a finalement arrêté les gens de marcher. Ces 35 000 personnes-là se sont fait mettre un mur de policiers devant eux. Donc, la raison pourquoi qu'on manifeste le 27 devant Radio-Canada, c'est justement parce qu'on n'est pas d'accord avec la version que Radio-Canada amène du G20. Puis, nos revendications sont qu'on aimerait ça que le gouvernement canadien puisse s'excuser aux gens qui ont été martyrisés.
Et... Vous l'avez répété plusieurs fois et jusqu'à présent, vous n'avez pas reçu des excuses.
Non, vraiment pas. Puis,
tout à fait, mais on l'exige encore parce que justement, il n'y a eu aucune excuse faite à notre notre endroit. Donc, on va toujours le demander jusqu'à temps qu'on nous donne, qu'on nous fasse ces fameuses
excuses. Il dit dédommager aussi. Là.
Les personnes qui ont pris la rue puis qui ont été manifestées parce qu'il y avait des opinions lors du G20, quelles que soient leurs opinions, que c'était pour l'environnement ou whatever, ils avaient le droit d'y être. OK?
Oui.
Puis ces gens-là ont le droit aussi à une justice.
Oui.
Ils ont le droit que. Il y a quelque chose qui avance dans ce dossier-là. Tout ce que c'est paralysé, c'est bloqué depuis le début. Ottawa bloque le dossier. Même Morani, ça a été difficile avec sa commission. On l'a vu aller, elle était très forte, mais tu sentais les conservateurs vouloir bloquer ce processus-là.
Tout à fait.
Et c'est un peu aussi toute l'obscurité qu'on essaie d'entretenir, genre, oui, mais si les gens étaient arrêtés, ils sont coupables. Non, ils sont pas coupables. Vous êtes pas coupables de faire votre droit démocratique.
Ben, on s'est jamais passé une fois dans les médias les raisons pour lesquelles les gens étaient dans les rues à Toronto.
Ouais,
pour,
comme on sait
on s'est
pas
jamais
plus.
Fait demander pourquoi t'étais là puis tu manifestes.
Ouais, puis comme on sait pas plus, c'est quoi les décisions lors du G20? J'ai parlé avec plusieurs journalistes. C'est quoi les décisions qui sont tenues en clos?
On le sait pas.
On le sait pas.
Ouais. Mais Patrick, moi,
pas de journaliste qui pose la question.
J'aimerais bien savoir, c'est que, imaginez-vous, c'est vous, les militants, si vous n'étiez pas là. On tourne la page de G20 et puis on n'a rien vu, c'est ça?
Ça passerait dans l'oubli. S'il n'y avait pas de militants ici à Montréal ou ici au Canada.
À travers le Canada.
Ça passerait dans l'oubli, là. Ça serait dans le vide, là.
Mais faut dire aussi qu'on est à l'époque présentement où que tout le monde se croit spécial. Tout le monde pense qu'ils sont quelque chose, qu'ils sont importants. Tout le monde travaille pour justement ça. Mais on se rend pas compte que collectivement, on est en train de perdre tous nos droits. Puis vu qu'on n'est pas intéressé à la politique, mais ceux qui sont au pouvoir, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur politique. Il n'y a pas personne qui s'en soucie.
J'aimais l'expression quand j'étais plus jeune, c'est si tu t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi. C'est un peu.
Mais c'est pour vous, Patrick, vous êtes bien placé pour le dire. L'action militante,
le travail d'un militant, le premier travail d'un militant, c'est sonner l'alarme, tu sais. Puis ça prend des gens, puis ils ont besoin d'être aussi appuyés, tu sais. C'est comme, les gens, ils prennent de leur temps, leur vie pour ça. Ils donnent...
Dominique, comment pouvez-vous, en quelques mots, peut-être convaincre les gens que l'action militante, elle est importante, tu sais. Il faut. Sinon, nous sommes foutus, quoi.
Mais c'est parce que, justement, si pas de militants ou qu'un militant, comme Marc disait, ben, puis comme Patrick disait, la politique va s'occuper de nous, puis c'est exactement ça qui arrive présentement.
Oui.
Donc, si on est juste 1000 à sortir dans les rues, effectivement, c'est facile pour l'État d'installer 1001 police pour en anti-meute pour tout nous contrôler. La force, c'est notre nombre, ça sera notre force. Plus qu'on est dans les rues, plus que c'est là que l'action militante va pouvoir plus éclore, et c'est là que le gouvernement va plus nous écouter. C'est pas juste les manifestations, le travail d'un militant. Le travail d'un militant, c'est l'éducation populaire.
Exactement.
Pour que
pour
réveiller les esprits. Oui. Ensuite, il faut faire de la publicité, il faut faire des événements, il faut faire des lieux.
C'est tout un travail, oui.
Il faut trouver, faut pas trouver, parce que on n'a pas besoin de chercher son là, mais il faut choisir des luttes aussi, parce qu'on peut pas tous les faire les luttes. Mais c'est tous et chacun. Si on peut prendre une lutte à défendre cette semaine, tous et chacun, eh bien, peut-être qu'on ferait un changement dans la société si tous et chacun combattait.
Pourtant, on voit que des fois, il y a des voix qui se lèvent et tout. Mais il y a des oreilles, c'est-à-dire il y a des la politique on essaie d'ignorer les voix du peuple aussi. C'est-à-dire même la démocratie. Quelle sorte de démocratie? Je pose la question peut-être à Eric ou bien quelle sorte de démocratie on vit donc?
Vous voyez notre slogan sur notre affiche, c'est la démocratie est-elle menacée? Puis on a utilisé le terme menacée parce que quand t'es menacé, c'est parce que tu te fais attaquer ou il y a des gens qui attaquent. Alors moi je pense que notre démocratie populaire là, elle est attaquée.
Oui.
Elle est attaquée. Puis s'il y a pas des gens qui prennent la rue, puis s'il n'y a pas des gens qui réagissent, ben la démocratie, on va aller chez le garde.
Fait. Faut pas se cacher.
Non, mais des fois même, les gens discutent, ils parlent et tout, mais il y a pas, on prend pas en considération la parole du peuple. On a, c'est comme.
Mais là, vraiment, l'industrie où le gouvernement est en train de créer un nouvel ordre mondial qui est fait pour l'industrie, par l'industrie. Nous, on est bien d'accord de mondialiser la planète si c'est pour travailler en harmonie, travailler ensemble, créer un nouveau monde pour le peuple, par le peuple, partager les ressources, travailler ensemble, collectivement. Puis jamais dans l'histoire de l'humanité, ça a été plus possible qu'aujourd'hui, parce que jamais on a produit autant de ressources naturelles qu'aujourd'hui. Puis on le fait pas. On est encore en train de regarder notre petit nombril, puis de se demander qu'est-ce qui est important pour nous quand c'est collectivement qu'on devrait faire quelque chose.
Parce que aussi, ignorer la voix du peuple, c'est grave. Hein? Imaginez-vous, par exemple, je donne un exemple banal comme ça, il y a quand même plus que 70% des Québécois qui ont dit non à la guerre, par exemple, et pourtant, nous sommes engagés dans la guerre et tout. Ouais. C'est-à-dire que ça nous montre comme quoi
Le résultat des dernières élections, ce fut que le Canada a... Là, je fais pas de fédéraliste et de nationaliste ici, je raconte juste les faits. Le Canada a voté majoritaire à Stephen Harper. Stephen Harper et son gouvernement est maintenant majoritaire à Ottawa. Le Québec, on n'a pas voté pour le Bloc québécois, d'accord, à ma grosse majorité. On a voté pour le NPD, d'accord. Mais le NPD est à gauche. Le Parti conservateur est à droite, ça monte encore
très à droite,
une fracture de pensée. C'est pas parce que le Québec va dire quelque chose que ça va se passer au Canada, malheureusement.
Je vais défendre le Québec parce que le Québec a envoyé un seul message, quel que soit à droite gauche, c'est qu'ils en veulent pas de Harper.
C'était exact.
Moi j'ai trouvé ça
clair.
C'est ça. Et pourtant il est pas. Oui, Eric.
T'en partais mot?
J'ai pas levé la main. Non, je suis complètement d'accord. Là, je dis Québec, il a fait savoir sa position.
Ouais.
On est rendu orange.
On n'est plus bleu.
Peut-être avec vous, revenons un petit peu maintenant. Quel est le message? Est-ce qu'on a des messages à passer aujourd'hui pour que les gens ils vont venir massivement à votre marche du 27? Et qui s'occupe de cette organisation du 27 juin prochain?
Ah ben en fait
de la marche, je parle de la marche du 27
juin. L'événement est organisé par notre organisme qui est l'ODPP, l'Organisme de défense des prisonniers politiques.
Vous êtes appuyé d'eux?
Pardon?
Et vous êtes appuyé d'eux?
Oui, on est appuyé par différentes tendances et puis différents groupes sociaux, groupes de gauche et puis certains mouvements étudiants et tout ça. Et c'est ça, le message est clair, c'est que si tu t'inquiètes au niveau des droits démocratiques, ben il faut revendiquer. Fait que
vous êtes en train d'envoyer un message aujourd'hui, une invitation ouverte à tout le monde.
C'est ça. En fait, on demande aux gens de la population de se présenter sur les lieux pour dénoncer le fait qu'on a des droits constitutionnels, puis
ce qu'on disait, c'est que nos revendications sont simples. C'est qu'on veut que le gouvernement Harper nous fasse des excuses, qu'il nous dédommage, qu'il nous explique qu'est-ce qui s'est passé finalement au G20. Puis c'est pour ça qu'on prend la rue. On se pointe devant Radio-Canada parce qu'on trouve que Radio-Canada a pas eu un point de vue qui est objectif, si vous voulez.
Mais Radio-Canada s'est fait censurer beaucoup aussi. Puis il faut pas oublier, ça aussi, c'est une des raisons pourquoi on va devant Radio-Canada, c'est que des journalistes, eux aussi, se sont fait maltraiter durant le G20. Il y a des journalistes qui se sont fait attaquer par les policiers, qui se sont fait arrêter par les policiers, qui se sont fait confisquer leur matériel et qui se sont fait briser leur matériel, ainsi que se faire mettre dans des cages comme nous. Ça, je pense aussi que c'est important d'aller aussi défendre la liberté d'expression des médias et qu'enfin, comme Marc dit, qu'on ait une vraie et juste couverture médiatique, une réelle couverture médiatique, comme il se passe, au lieu d'avoir les mêmes quatre images qui démontrent absolument rien dans le fond, qui démontre pas les manifestants manifestés, qui démontre absolument rien, puis voilà.
Ben en fait, excusez-moi pour tantôt, j'avais un énorme blanc, mais c'est ça. On veut que notre message passe. On veut que le message se rende jusqu'à Ottawa. On veut justice.
Oui,
on veut que les arrêtés du G20 aient justice.
Oui.
Puis on lâchera pas. Puis s'il faut le faire à chaque année, on le fera à chaque année. C'est...
Mais il faut justement, il faut pas que ça s'arrête. Il faut c'est... que chaque année, ça revienne. C'est parce ça. Que c'était un point qui était noir. Il faut qu'il reste, vous comprenez?
Oui. Non, mais il y a des choses complètement aberrantes qui sont passées pendant ce G20-là. Là. Je pense que je suis tout seul à capoter, mais on m'a injecté de quoi dans le bras? Là. Moi, c'est complètement aberrant. Là. Ils m'ont injecté quelque chose dans le bras par la force. On m'a menacé de me mettre
pas
au
encore c'est quoi aujourd'hui.
Me battre. Puis on sait toujours pas aujourd'hui c'est quoi. Est-ce que je suis tout seul à paranoïer pour ça? Je ne sais pas.
Mais... Éric Sylvestre, excuse-moi, est-ce que après le 27 juin, est-ce que vous avez pensé, par exemple, à sensibiliser comme un projet à partir de septembre les élèves dans le secondaire, le cégep, faire des conférences et tout? Est-ce que ça vous vient à l'esprit ou non?
Oui, certainement, certainement, c'est intéressant. Mais en fait, on vise aujourd'hui à devenir international aussi, avoir des appuis, des regroupements, une cellule de l'ODPP qui pourrait se former ailleurs.
Dans tout pays qui se dit démocratique, puis en regardant justement qu'est-ce qui se passe en Égypte, en Syrie, en France, en Espagne, plus on regarde ça, en Amérique du Sud, aux États-Unis, au Canada, en Palestine, même en Israël, il y a des prisonniers politiques, il y a des gens qui veulent pas aller se battre. Puis ces gens-là aussi, je pense que leur voix a le droit d'être entendue.
Mais je pense aussi que vous êtes comme des militants intelligents, comme je vois comme ça. C'est avec l'action pacifique que vous allez essayer de reprendre terrain.
Tout à fait. On voudrait spécifier que l'événement qui se tient le 27 juin...
C'est un événement qui est pacifique. Voilà.
Ça va être pacifique. Ça va être un événement de commémoration de un an du G20. On va se rappeler, on va se dire pourquoi qu'on est là ici présentement, c'est quoi qu'on défend, c'est quoi la vraie liberté d'expression, c'est quoi une réelle démocratie.
Et qu'est-ce qui est l'importance aussi d'être là.
Exactement, puis présentement on est en train de faire des démarches, on ne sait pas encore si ça va fonctionner, mais on est en train de discuter avec des groupes militants de la France pour pouvoir créer une journée le 27 juin aussi à la même date que la nôtre pour les prisonniers politiques.
Vous essayez de mondialiser ça.
Que ça devienne la journée internationale.
On le sait aussi qu'à Toronto, parce que le G20 est à Toronto, ils font une manifestation samedi le 25 juin à Queen's Park. Queen's Park, c'est beaucoup de personnes sont faites arrêter à Queen's Park. Beaucoup de manifestants sont faites entourer.
Ça, les médias non plus l'ont pas montré que ça s'est passé à Queen's Park. Et moi, je m'en rappelle très
bien. Queen's Park, il y a un Québécois qui s'est fait piétiner par des chevals, des chevaux de policiers anti-émeute. Les policiers anti-émeute ont fermé Queen's Park, qui était un lieu pacifique pour les manifestants, déterminé par la ville à se rendre.
C'est une aberration. Juste de dire qu'il faut avoir une zone où ce que la libre pensée ou la libre parole.
Tout à fait. C'est
complètement aberrant.
C'est totalement la liberté d'expression. Mais même ça, c'était pas assez. Même ça a fait en sorte, à la fin, que la police a quand même
transformer le parc en
zone de guerre. Ce qu'on a vu là-bas, c'est la seule violence qu'on a vue au sommet de Toronto, c'est par la police.
Mais Patrick Scott, j'aimerais bien, est-ce que vous croyez sincèrement qu'avec avec le débat des idées, avec l'intelligence humaine, on arrive à convaincre nos politiciens de changer le cap?
Ça, c'est une grande question.
Il faudrait savoir ce que nos politiciens ont eux-mêmes en arrière de la tête.
Moi, honnêtement, je pense que les politiciens, des fois, ils servent juste leur propres intérêts.
Je voulais dire, on n'a pas besoin de se révolter pour ça quand même. C'est un pays, c'est moderne, exemplaire et tout, avec les idées. On arrive à convaincre aussi.
C'est la société
dans la savane,
qui change son mode de vie. Oui. C'est elle qui décide. Si elle prend la rue, on connaît bien notre histoire. Là. S'il y a eu des luttes syndicales ou des luttes ouvrières et tout ça, s'il y a eu des acquis sociaux, c'est parce que c'est le peuple qui a pris la rue. Mais des fois...
Parce qu'on a foncé un peu le clou plus... l'extrémité, quoi, c'est ça?
Oui, moi, je pense qu'on rentre dans un air plus passif.
Voilà, c'est ça.
Et puis, ici, on subit pas la même crise financière qu'en Europe, on s'entend.
C'est très chanceux aussi.
On est stable au niveau de notre travail ou...
Encore.
Oui, mais...
On vit la même crise économique,
mais on a une certaine stabilité, je pense pas vous dire. On a une certaine stabilité.
C'est ça, certaine stabilité. On ne dit pas qu'on est comme quand on était dans le boom, là. Mais ça reste que c'est ça. Fait qu'on voit comme en Espagne, les jeunes prennent la rue. En France, ils en ont ras-le-bol. Je vois des gens avec des mégaphones dans les métros pour dénoncer qu'ils en ont ras-le-bol. Que leur système, marche pas.
On salue d'ailleurs les gens qui se combattent contre la spéculation.
Ouais.
Vous saluez
en Espagne et en France.
Moi je sens qu'il y a comme un vent, il y a un vent de possible de grands changements en Europe.
Ouais.
Le Canada il est très en arrière de tout ça, mais bon, on verra.
Je peux vous dire, je suis un petit peu loin.
Oui, un peu loin, oui, entre autres.
Écoutez, j'aimerais bien maintenant peut-être à chacun de vous dire un dernier mot comme ça. De ce que vous pensez, peut-être d'un message aussi, peut-être à ceux qui nous entendent ce matin. Alors, je commence par vous, Dominique.
Oui, ça serait pour vous rappeler l'événement qui va se tenir devant Radio-Canada le 27 juin à 16h30. Nous aimerions aussi, l'organisme de défense des prisonniers politiques aimerait inviter aussi deux personnages, Madame Mourani et Monsieur Amir Kadir, l'organisme de défense des prisonniers politiques,
ouais,
vous invite formellement, officiellement à participer à cet événement. Donc, voilà, le message est lancé.
On demande aussi à toutes les arrêtées du G20, à toutes les gens qui ont été victimes de répression politique de se présenter à cet événement-là. Je pense que c'est important.
Ou les gens qui sont sympathisants.
C'est
le
mot de Marc, le mot maintenant de Eric, peut-être?
Ben, qu'à la meilleure éducation, je pense que tout le monde doit regarder un peu les nouvelles puis voir qu'on peut compter sur notre adversaire. Moi, personnellement, on essaye tous d'avoir des rêves et puis je peux pas rien dire à la place des gens qui sont à poursuite de leurs rêves, puis réalisez vous-même que la meilleure démocratie, c'est dans la rue si vous voulez avoir accès à quelque chose.
Tout à fait. On passe la parole au pape des militants.
Ah, yeah! Monte-moi pas haut parce que ça va faire mal quand je vais descendre.
Vas-y, quel mot vous allez dire?
Non, ben c'était plus des titres d'infos. Moi, je vous conseille d'aller sur notre site web qui c'est odpp.webs avec un s.com.
Et l'organisme de défense des prisonniers politiques sur Facebook.
Et je vous conseille aussi le rendez-vous, c'est devant Radio-Canada, c'est 1400 boulevard René-Lévesque Est. C'est le métro Baudry. C'est à 5 minutes du métro Baudry.
Voilà, donc, malheureusement, chers autrichiens et auditeurs,
tout ce qui nous reste
de notre temps. Donc, j'aimerais remercier nos invités, quatre invités. Je commence par Patrick Scott, Éric Sylvestre et Dominique Paladi. Merci. Et Marc
Laramé.
Et pour leur participation à cette émission. Je remercie notre technicien de son, Nadia Merouani. Merci à Radio Centre-Ville, 102.3 FM de nous avoir cédé ces ondes afin que la parole de l'autre existe. Merci à vous, mes chers auditrices, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine saison. À moi, je vous dis à bientôt.
Sa couleur de peau, sa religion, son cœur que je vois. Il n'est pas comme vous l'aviez rêvé. Vos regards sur lui sont cruels. N'imaginez pas que je vais le quitter. À mes valeurs, oui, j'ai choisi de rester.
participer au concours La Grande Fête Multiculturelle Hydro-Québec. Voyez Habib Côté aux premières loges aux Francofolies de Montréal. À gagner, 10 laissez-passer pour deux personnes pour les estrades du spectacle. Un grand prix d'un séjour pour deux à la baie James. Pour participer, visitez francofolie.com/concours Hydro-Québec. La Grande Fête Multiculturelle Hydro-Québec avec Habib Côté le 13 juin aux Francofolies de Montréal.
Ne manquez pas d'écouter l'émission « Les comptes à rendre » les dimanches de 6h à 8h à Radio Centre-Ville 102,3 5 FM. Et aussi disponible sur le web sur www.radiocentreville.com.
Bonjour, ici Pierre Lahaye, horticulteur. Je vous invite à prendre une bouffée d'air frais tous les mardis de 13h à 14h à Radio Centre-Ville au 102,3 FM. Je vous parlerai d'horticulture, d'environnement et aussi de musique. Une bouffée d'air frais tous les mardis de 13h à 14h.
Dermalis, soins anti-âge visage et corps. Dermalis, soins esthétiques pour femmes et hommes. Dermalis, traitement exclusif. 514-289-2626 ou visitez dermalis.ca.
Vous avez une soif inaltérable du savoir? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102,3 FM et sur le câble au 88,3.